Nous sommes le jeudi 15 août et vous écoutez le 47e épisode de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de l'actualité du jeu de société. Proxy Jeux, c'est aussi une application mobile sur iPhone et Android. Salut les joueurs et salut les joueuses.
Et salut Jérémy.
Et salut Olivier, salut.
Bonjour Fan d'OL.
Bonjour.
Et nous sommes très heureux de vous accueillir dans la nouvelle formule du podcast Proxy Jeux. Vous l'aurez remarqué, il y a quelques changements. Vous l'aurez remarqué, le premier podcast de l'année, cette fois-ci c'est un numéro exceptionnel, un numéro d'autopromo dans lequel on va tout de même vous parler de jeux de société et de jeux de rôle. Donc je veux dire bonjour à David.
Salut.
Alors c'est Dédé Chutes.
Dédé Chutes.
Pour ceux qui n'auraient pas reconnu sa voix suave.
Oh oui.
Bonjour Fendwell.
Bonjour Olivier.
Comment vas-tu?
Très bien, et toi?
Ça va, bonjour Plain.
Salut.
Bonjour Krilin.
Bonjour.
Il mangeait tout à l'heure. Bonjour Alexis.
Salut.
Et bonjour les auditeurs et les auditrices.
C'est quand même vachement bien Broxy Jeux. On a 4 micros pour 9, ça déchire.
Oui, parce qu'on n'a pas les moyens de Basingcast. Hein. Okay,
vous n'avez pas les bons sponsors, c'est tout.
C'est ça. Ah bon, on parlera tout à l'heure en off des sponsors de Basingcast.
L'atelier du mobile.
Tout d'abord, je voudrais rassurer ceux qui ont pu émettre des inquiétudes par rapport au changement de format. On va continuer d'exister, on va continuer à commenter l'actualité, on va vous présenter des jeux.
Il y en a un de vous deux qui n'existe pas vraiment quand même.
Oui, bah toi Krilin, ça va. On vous présentera des jeux sur table et sur écran, puis vous l'avez remarqué, on ne sera pas tout seul. On va être entouré cette année et on va être bien entouré. On n'entendra pas Krilin tout le temps. On va continuer aussi à faire des digressions, à boire de la bière et puis voilà, parler de ce qu'on aime.
Bah oui.
Tu nous en dis un petit peu plus ou alors que je continue sans m'annoncer que...
Ah bah, je sais pas, je te sentais bien parti, c'est ta note, c'est tout toi qui as préparé. Alors l'idée c'est d'enregistrer plus qu'une fois par mois.
C'est ça.
C'était presque ce qu'on faisait à la fin de la saison dernière, hein, une fois toutes les trois semaines. Là, on va enregistrer une fois par mois, mais une grosse fois on va dire par mois. L'idée c'est un thème. On va plutôt garder le concept magazine cette fois-ci avec des thèmes.
C'est ça, on va essayer de plus coller au concept magazine.
Donc on commencera en octobre avec les Gateway Games, un dossier que vous avez demandé très souvent et qui enfin devrait arriver.
Pour ceux qui se demandent, les Gateway Games, c'est les jeux qu'on sort pour faire jouer les gens. Les gens qui sont...
Alors, soit découvrir le jeu.
Nos mamans, nos mamies, nos collègues de travail. Hein.
Ouais, pas que des vieux forcément, hein. Ça peut être aussi vos collègues
voisins.
Qui sont des gens normaux.
Voilà.
Normaux. Nos enfants, tout ça.
C'est vraiment un podcast neurasthénique. Hein.
Bah, parle plus, il n'y a pas de problème. Donc, des thèmes. Les thèmes, on avait les illustrations.
Les thèmes de l'année.
Oui, les thèmes de l'année, enfin les thèmes qu'on pourra aborder. Seasons, Dixit, Bruxelles, le nouveau Pearl Game. J'étais très 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 fier de pouvoir reconnaître à la fois la BD belge et l'art moderne. L'art nouveau, pardon. Putain, ça,
ah, ça y est.
Les zombies.
Parce que tu le connais bien.
Les zombies.
Oui, Plane. Des zombies.
Z-Corp, tu vas pouvoir nous parler de Z-Corp.
Right, absolument.
Les jeux de société comme Walking Dead et puis Zombie 15. Les jeux d'inspiration asiatique. Ça, c'est pas moi qui l'ai marqué.
Ah oui, c'est peut-être moi.
Oui.
Ah c'est possible.
Après, t'as dit, oui, c'est toi qui fais la note, tout ça.
Ah oui, non, mais ça, c'est les idées. Les idées jetées en vrac. Après, on verra si on va jusqu'à là. Les jeux.
Médiéval fantastique, les jeux d'affrontement, les jeux en solo. Et puis, merci à Guilin Lévesque, qui nous a proposé le print and play. Et alors là, je me tourne plutôt vers Alexis.
Oui, bonjour.
Je te dis bonjour.
Oui.
Ah, excuse-moi. Mais comme en fait, t'es un peu en décalage, il faut qu'on rapproche la table de l'autre chaise. Parce que notre studio, un petit peu, n'est pas fait pour cette personne. Voilà, donc le print and play, c'est toi, et j'espère que tu participeras activement à ce numéro. Et bien sûr, les interventions, les gens que vous avez commencé à entendre parler, on les a entendus très ponctuellement. Enfin, pas pour DD, mais. Ou certains, vous les avez pas du tout entendus.
Moi je suis tout le temps là moi.
Ouais, partout tout le temps. Et on compte les avoir vraiment plus régulièrement dans le magazine. Et puis j'aimerais que ces interventions aient un sens par rapport au thème. Krilin.
On n'a pas parlé salaire. Ils vous ont parlé salaire?
À moi oui.
Alors, je vais
ils ont promis quoi?
Ils sont rémunérés que ceux qui font de la qualité.
Je vais aborder, je vais faire une digression.
Ah merde, c'est
que toi.
Il faut que je saute du coq à l'âne tout de suite. On va présenter l'ensemble des intervenants. Et pour Krilin, j'avais écrit ça. Il n'est pas vert, il a n'est pas couvert d'écailles, ne se balade pas avec une massue, mais c'est pourtant le seul troll qui ne soit jamais laissé aller à mettre un commentaire sur notre site.
Alors, je suis pas sûr que un troll ait des écailles normalement.
Voilà. T'en as déjà vu.
Bref.
Alors, comment tu fais ça?
Et en plus, il y a eu un autre troll, un vrai troll sur votre. Donc, ton intro, elle est complètement foireuse.
Merci.
Il coupera tout, hein, j'espère.
Alors, des interventions régulières de la Proxy Team, des invités. On est à peu près sûr d'avoir Martin Wildberg qui va nous accompagner lors d'un magazine, peut-être en fin d'année. Les Ludochons, que je salue au passage. J'espère venir vous voir le 19 septembre avec Jérémy.
Oui, bien sûr. C'est l'association de jeux à Bourgoin-Jallieu, autour de pas loin de Lyon.
Près de Lyon, dans le sud. Parce que là, on est à Paris, on est à la capitale, donc j'explique un peu.
Merci, on connaît notre géographie. Hein.
Ah, d'accord.
Les gens qui nous écoutent savent pas.
Et puis bien sûr, alors vous inquiétez pas, toujours des hors-séries, des crossovers, avec Podcast Science notamment, le blog de la cellule, et puis des interventions impromptues, des concours, etc., etc. D'ailleurs, en parlant de concours, Jérémy.
Les résultats du concours de Love Letter. Alors, je sais plus qui a gagné, mais bravo, vraiment.
C'est
Jean-Louis. Bravo, bravo aux gagnants.
C'est ouais, ça non. Votre truc de nous, on est un podcast pro, et je comprends mieux pourquoi vous faites 10 heures d'émission pour une heure de podcast.
Hein. Non, mais ils font genre, ils ont des papiers, voilà. Ils ajoutent les papiers.
Attends, c'est lui qui a gagné.
C'est Jean-Louis Lolo qui a gagné, et après, c'est Nicolas Lagnier.
Et Jérémy Nolo, il a fait quoi comme.
Vous pouvez retrouver sur notre site podcast.proxy avec un itérage
avec. Pour avoir été juré, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient de la culture. Ça m'a un peu étonné vu votre auditoire. Et malheureusement, comme les jurés n'ont pas de culture, c'est pas eux qui ont été choisis pour gagner.
Mais t'as pas participé.
Attends, tu sais qui avait de la culture.
Moi, j'ai choisi les mecs qui avaient fait des acrostiches et ce genre de trucs. Enfin, tu vois, les mecs qui ont un peu.
Ah non, mais nous, attends, on parlait de poésie en fait, c'est pour ça.
Ouais.
Alors, je vous rappelle, l'idée était de déclarer son amour pour un jeu en 160 caractères. Donc, 160 caractères.
140.
146 caractères. 140 caractères.
Oui, il y en a qui ont.
L'effet Twitter, il y a des gens qui ont fait beaucoup plus. Il y a des gens qui ont collé un peu au thème. Il y a des gens qui ont fait une déclaration d'amour, mais pas forcément à un jeu, plutôt au jeu en général. Mais ça donne quelque chose de très varié, donc qu'on peut trouver sur le site. Vous voulez que je.
Bon, au moins les deux.
Attends, ouais, quelques-uns.
Au moins le podium.
Il faut que je retrouve en fait.
Je les aile.
Seulement ceux des gagnants.
Oh non, mais le premier, c'est toi qui peux le lire, c'est Seasons.
Non, mais ça reste de la poésie de merde, quoi. Faut être, ce qui est redondant. Hein.
T'as participé ? Alors, le premier, merci à Jean-Louis Lelot. Au fil des saisons, mon cœur frissonne. Il bourgeonne et rayonne, à la fin, il grisonne. La piste de score me chiffonne, mais j'aime Seasons. Bravo. Ça, on a eu vraiment de très belles choses, alors même si.
Ça fait pleurer, là.
Alors, il y avait Gears of War qui est beaucoup plus.
Ah ouais.
Dans tes yeux vides, je vois l'envie de mordre mon bide, mais mon Uzi t'offre une rafale.
Il y avait aussi Shadowhunter.
Mon doux Shadowhunter, je me rends comme un prêtre sans pudeur quand le loup-garou fonce sur Amy, tel un légionnaire sur la brebis. Sur une brebis, je me retrouve plongé dans un monde d'amour tour après tour, avec Métamorphe qui me permet de bluffer comme un politicien à la télé. Je ne pourrai jamais t'oublier, même avec 10G de GHB.
10 grammes.
C'est impressionnant. Hein.
Voilà, donc merci beaucoup d'avoir participé à ce concours. On est un peu resté sur notre fin l'année dernière avec le concours photo qui avait fait un vrai bide. Là, vous avez été assez nombreux, on a une quarantaine de participations. Alors, il y a du bon et du moins bon. Tout le monde n'est pas poète. Voilà, moi non plus, j'aurais pas fait quelque chose.
L'important, c'est de participer.
Et merci encore à tous ceux qui ont participé. Allez, on va commencer par quelques brèves. Alors, cette année, on a recommencé le vœu pieux de dire on va faire des brèves qui sont brèves. On va voir si on
challenge accepted.
Challenge accepted.
Et on commence avec le Spiel des Jahres. Et comme d'habitude, Olivier et Jérémy se sont plantés. Alors,
comment ça,
qui a gagné ?
Il y a le pronostic. Voilà,
c'est bon. On voulait faire des brèves et là, ça va plus être bref. Non. J'ai dit que. Alors, les gagnants du Spiel des Jahres cette année sont. Pour le Spiel
Anabi de Antoine Boza.
Et pour le Kenner Spiel des CRS
Andorre de Michael Menzel.
Alors est-ce que vous êtes d'accord sur ce choix?
Moi je connais pas ces jeux.
Je connais même pas
Merci
Anabi.
Merci de cette intervention.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, alors tu as un des meilleurs jeux coop du monde avec Anabi. qui a eu le Spiel. C'est un jeu qui, dans lequel tu dois faire des feux d'artifice. Tu ne connais pas les chiffres que tu as en main, les cartes que tu as en main.
Ah oui, ça te déchire. On va faire des feux d'artifice
c'est
en
ça,
jeu coop.
Gus,
ouh, ça me donne tellement envie, mais je vais l'acheter en sortant quoi.
Gus n'est pas
Gus
du tout.
Gus sort de ce corps.
et c'est un très très bon jeu coop parce qu'en fait tu vas inviter les autres à poser leurs cartes dans un ordre précis.
Pour ceux qui passent leur bac français, c'est un bon exemple d'oxymore. Un très bon jeu coop.
C'est fini le bac de français.
Et tu vas leur donner une information. Tu vas leur donner une information sur le chiffre ou tu vas leur donner une information sur la couleur. Tu vas faire des chiffres, des suites 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 en 4 couleurs. Bleu, rouge, vert, jaune et
blanc.
Blanc. Ça fait donc 5. L'idée, c'est de pouvoir donner des indications à tes copains, compères, coéquipiers.
Aux autres joueurs.
Partenaire sexuel.
Et l'idée, c'est que tu as un nombre d'informations à donner qui est fini. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, bah voilà, là, tu as des 1, là, c'était du bleu. Là, c'est, et donc, c'est ça. C'est là que c'est cette contrainte qui est intéressante. Et c'est surtout tout ce qui va se mettre en place autour de la table pour dire, ah ouais, mais alors attends, parce que quand je te dis que c'est du blanc et qu'on a dit qu'il y avait un 5 et qu'il faut poser un 5, et bien, s'il est blanc, c'est confiance, tu vois.
C'est du sudoku à plusieurs.
C'est ça. Donc, Anabi, c'est un excellent jeu et je suis très content qu'il soit récompensé.
Contre toute attente, parce qu'on n'est pas habitué à avoir des petits jeux format carte gagner un spiel.
Et c'est là que je voulais répondre à Dédé. Oui, on s'est trompé, mais effectivement, par rapport au format et par rapport à ce qu'on pensait qu'il allait sortir,
mais tant mieux.
C'est Augustus.
De la sélection, on était déçus de voir un jeu de loto et un jeu de Yam. Finalement, on est content que c'est Anabi qui l'emporte.
Bravo. En fait, ce podcast se transforme en podcast troll.
C'est ça.
Alexis.
Sachant qu'Augustus, il rentre dans la botte de Anabi, en fait.
Presque. Ouais.
voilà, donc très bon jeu coop. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'il a été réédité par Pegasus Spiel.
Oui, c'est Abacus. C'est Abacus qui l'a sorti l'année dernière à Essen. Ouais, c'est pour ça qu'il a été nominé en Allemagne seulement maintenant et découvert. Quand on pense qu'il a démarré par une petite édition en France par Les Doux Singes, c'est incroyable. En quelques années, finalement, le jeu il va jusqu'à. N'est-ce pas c'est...
Par contre, Andorre pour le Kennerspiel, qui est censé être un jeu quand même pour les connaisseurs.
Qui vient d'avoir. Alors qu'en France, il est le prix du jeu familial.
C'est ça.
Un classe d'or jeu de l'année. Moralité, le public français est un cran au-dessus du public allemand.
On continue dans le troll, bien sûr. Vous l'aurez compris, le thème de ce podcast, c'est le troll, le trolling.
Voilà, donc Anabi, une bonne surprise. Et puis Andorre, bravo à Yellow d'avoir. Éditer ce jeu, c'est un bon jeu, hein, mais bon, après, c'est Kennerspiel. Bon.
Bah quoi ?
Bah, pas Kennerspiel, quoi.
Sur Twitter, il a un petit peu plutôt des mauvais retours. Moi, j'y ai pas joué, mais les connaisseurs ont un petit peu du mal à comprendre ou peut-être appréhender ce jeu qui, justement, est fait pour. Pour toute la famille, justement.
Oui, mais on en a parlé lors de nos derniers podcasts avec Stéphane, donc l'avant-dernier. Non, mais réagis, il y a aucun problème.
Ouais.
Et moi, la critique que je faisais, c'est que c'est quand même assez restreint comme arc narratif. Et c'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu sortais, tu avais des scénarios où tu avais des gros trolls, et c'était fini, quoi. Si les trolls étaient autour de ton château, t'avais aucune chance. C'est assez pauvre en fin de compte par rapport
en renouvellement
et puis même si je sais pas si t'as joué à Naufragé, mais j'ai l'impression que Naufragé est quand même beaucoup plus intéressant au point de vue justement de ces arcs narratifs et de l'histoire que tu vis en fait.
Mais c'est va être le début d'une nouvelle série de jeux en fait, c'est un mécanisme qui va beaucoup revenir.
C'est ça. Bref, donnez-nous votre avis si vous en avez un sur Andorre et sur les prix. On continue sur les prix ou pas, David?
Oui, les
c'était bref là, hein. Je trouvais qu'on était bien bref, hein. Alors, une première.
Autre prix, voyons si vous avez un meilleur pronostic. C'est les International Gamer Awards.
Alors c'est un prix, on en parle chaque année, qui est le jury, il est international, comme le dit le nom, avec des journalistes un peu
c'est
de partout.
Des joueurs, je crois qu'il
y a
le nom aussi.
Des joueurs aussi, mais je crois qu'il y a Monsieur Fall, il y a côté américain, je sais pas qui c'est qu'il y a. Et ils viennent de sortir la sélection. Alors elle est un peu longue, ils ont deux catégories, jeux de stratégie et jeux de stratégie pour deux joueurs. Il faut savoir qu'en général, c'est quand même. Là, c'est du vrai jeu de connaisseurs qui gagne en général. Hein. Je crois que c'était Trajan l'année dernière. C'est des jeux un peu costauds. Alors pas de Andorre et c'est ici.
Ça n'a pas un rapport avec Mensa Award, c'est autre chose.
Non, les Mensa c'est
encore un truc. Ouais. Alors ça c'est dans la gradation, il y a le Mensa Award là, c'est vraiment quelque chose de. Et donc, les nominés sont
dans la catégorie stratégie.
Bora Bora, Bruges, Clash de Culture, Vincopolis, Keyflower, Mirmes, New Amsterdam, du Palace. Tu vois, c'est pour ça que ça marche pas en face.
Les Palais de Carrara,
Robinson Crusoe, Adventure of the Cursed Island, Snowdonia, Terra Mystica et Tzolk'in.
Et le pronostic est
Keyflower.
Alors je mets Terra Mystica. Moi.
Et peut-être, est-ce que Fendwell, t'as peut-être un avis là-dessus?
Un autre pronostic?
Mirmes.
Ok.
Super.
Moi, je reste très francophone.
Très bien. David?
Bah, Mirmes aussi. En fait, c'est un des deux seuls que j'ai joué. Mais...
Et c'est quoi le deuxième?
C'est Robinson Crusoe.
T'as pas joué Keyflower?
Non, pas encore.
Non, mais Keyflower est très bien, effectivement. Ouais. J'espère vraiment qu'il va gagner quand même.
La pression. Et pour les jeux de stratégie à deux joueurs, Android Netrunner, Antic Duelum. Alors, encore la rondelle de Margaret.
Là, c'est la version deux joueurs. En fait, l'adaptation pour deux joueurs du Antic.
Ah, d'accord. Le Havre, Port Fluvial, Mage Wars, Police Fight for the Hegemony de Franz Diaz, que je ne connais pas.
Mais ils ont moins de jeux de
non,
joueurs.
Non mais t'inquiète, de toute façon celui-là c'est clair.
C'est Android.
C'est Netrunner qui va l'avoir.
Mais j'ai rien dit.
Après, peut-être un pronostic.
Je connais pas Mage Wars.
Ouais, pourquoi pas. Ok, toujours pareil, Fanuel.
Non, Netrunner, très bien.
Ok, et donc on a la date pour le prix.
Alors, en général, ils le remettent au Salon d'Essonne, donc ils donnent le gagnant peu de temps avant.
Eh bien, rendez-vous mi-octobre pour savoir qui a remporté l'International Gamer Awards.
Alors ça commence aujourd'hui, même magie de la technique, ce sera fini quand vous écouterez ce podcast. On parle de la Gen Con.
Et oui, la Gen Con, alors en Europe, on a Essen, le Spiel de Essen. Et puis en Amérique, ils ont la Gen Con d'Indianapolis. Ça se passe dans l'Indiana depuis 1968. Eh oui, bien sûr. Ouais, c'est
peur des pièges.
Aujourd'hui, le centre de géographie.
Et puis, alors donc.
On va placer maintenant Indianapolis sur une carte des États-Unis.
Donc, je vous ai dit 1968. Qui a pour la première fois organisé la Gen Con d'Indianapolis?
Gygax.
Indianapolis.
Steve Jackson.
Gary Gygax. Bravo.
En 1960.
Notre maître à penser.
Ouais, mais parce que ça parle jeu de rôle, là, tout de suite.
Mais ça n'existait pas encore, jeu de rôle, à l'époque. 1960.
C'est lui qui l'a inventé.
Et c'était chez lui, il y avait 12 personnes.
Hey.
Et 5 ans plus tard, c'était dans le Wisconsin, ça s'est passé. Alors, c'était toujours à Lake Geneva, dans le Wisconsin, il y avait 300 personnes. Et puis, aujourd'hui, c'est à peu près 40 000 personnes uniques pour 170 000, je crois, visiteurs. Et ils disent que c'est le plus gros salon et celui où il y a le plus de gens qui viennent.
Aux États-Unis?
Non, ils disent que dans le monde. Et puis le plus vieux aussi. C'est vrai que c'est le plus vieux, c'est le plus vieux qu'Essen. Et il y a eu des Gen Con un petit peu partout dans le monde et c'est ça qui est rigolo.
En France, ils en ont tenté il y a une dizaine d'années, non, moins de 10 ans.
Et c'est rigolo parce que c'est même pas dans Wikipédia. C'est
mais Wikipédia en français
ou en anglais? En anglais.
Ah bah c'est pour ça.
Donc il y a la Gen Con East.
C'est vrai qu'il y a des Gen Con partout.
Je vous laisse une minute pour la.
Vous verrez l'air de tout le monde, c'est très très affligeant en fait.
Voilà, donc il y a eu des Gen Con à Barcelone, au Benelux, un peu partout, à Londres, voilà.
Je crois qu'on parlait de Magic tout à l'heure, mais la Gen Con de 93 a vu l'arrivée de Magic, et là c'est les 20 ans.
Donc peut-être l'année prochaine un reportage de Proxy Jeux depuis Indianapolis, qui sait? Ah, on va faire un
nous,
alors, moi, dans l'absolu, pas de problème. Il y a juste le prix du billet, etc. Mais si on fait un ululé pour ça, avec plaisir.
Mais je crois qu'Olivier a promis à Gus d'y aller de toute façon.
Ouais. Gus a dit l'année prochaine ou celui d'après. Il s'est pas mouillé. On ira avec Proxy Jeux faire le. Bah oui, ok, pas de problème. Mais j'en suis.
C'est l'été, c'est la saison des mariages. Et c'est aussi Sans Détour qui se rapproche de Playwin.
Alors, Plaine, est-ce que tu connais Sans Détour?
Oui.
Pourquoi?
J'aime bien Sans Détour.
Pourquoi?
Bah parce qu'il n'y a pas beaucoup de...
Parce que c'est direct.
De boîtes qui font des... C'était nul.
Non, parce qu'ils font de la qualité, ils font des super trucs.
Voilà, et j'attends les larmes du cardinal avec beaucoup... Les larmes du cardinal avec beaucoup d'impatience.
J'ai pas compris, c'est les lames ou les larmes?
Les lames.
Les lames.
Ça va être plutôt sympa, un univers capé d'épée, pour ce que j'en ai compris.
On apprend qu'en fait, Sans Détour va changer un petit peu sa stratégie éditoriale. Ils ont signé un rapprochement avec Playwin, et donc le Playwin va être un studio.
Et ils vont faire de la carte Pokémon.
Non, ça c'est Asmodée. Tu... J'ai pas compris.
Rien, juste son détour qui changeait très légèrement sa ligne éditoriale pour faire la carte Pokémon, c'est tout.
Donc il se rapproche de Playwin. Playwin.
Mouvement de concentration.
Donc l'idée c'est que Playwin va s'organiser en studio de développement de jeux et son détour va plus faire la promotion de jeux de société et de jeux de rôle.
Playwin,
ils ont besoin de bouffer quoi. En fait.
Playwin, ceux qui ont fait Mythic Battle, qui est sorti l'année dernière, il y a à peu près un an. Et sans détour, bah, ils voulaient venir au-dessus du plateau, non ?
Non, mais ça augure de très bonnes choses, parce qu'ils font des choses... Encore une fois, pour moi, vraiment le truc que je retiens avec sans détour, c'est la qualité de ce qu'ils font.
Oh, 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 oh ! Et une bouteille de rhum ! Et encore un crowdfunding. Fendoel, tu veux nous parler de Pavillon Noir ?
Oui, tout à fait. Je voulais vous parler, donc, une fois n'est pas coutume, d'un jeu de rôle. Donc, en fait, Pavillon Noir 2e édition, qui est déjà sorti il y a un petit moment. Et en fait, là, ils font une 2e édition avec un crowdfunding porté par la plateforme de crowdfunding de Black Box, en fait, qui est une maison d'édition de jeux de rôle, qui se termine à la fin du mois d'août 2013. Donc,
c'est pas Black Book ?
Black Book. Ils sont lyonnais en plus.
Je dis Black Box, mais c'est Black Book, je pense.
Black Book. Et Ok. Je refais.
Non, t'embête-toi.
Depuis le début.
Non, tu peux, ça sera.
On prend le début. Nous sommes jeudi 15 août.
Alors, c'est un jeu de rôle dans lequel vous incarnez un pirate, un corsaire ou un flibustier dans les Caraïbes de 1530 à 1810. Je vais t'expliquer. La différence entre un pirate, un corsaire et un flibustier, en fait.
Ça dépend de l'employeur.
Ils ont pas la, c'est pas la même jambe qui est de bois.
Tout à fait. Il y avait des.
Les pirates
des
sont freelance.
Pirates qui étaient freelance, tout à fait.
Travailleurs indépendants, plutôt.
Travailleurs indépendants et totalement autonomes et qui pillaient les choses pour eux-mêmes. Ou alors, ils étaient au service d'une nation dans les Caraïbes qui était une zone de conflit entre plusieurs pays, plusieurs énormes puissances européennes, la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne, Hollande, peut-être. L'Espagne, oui, tout à fait.
Et flibustier, c'est quoi ?
Le Portugal, pardon.
Et flibustier ? Parce que corsaire pirate, oui, mais flibustier ?
Ils font de la flibuste, évidemment.
D'accord.
C'est un autre type de pirate.
C'est une autre type de pirate.
Un autre type beaucoup moins agressif, je crois.
Alors, donc c'est un projet qui est déjà réussi, c'est-à-dire qu'ils sont à quelque chose comme 800% à l'heure où nous parlons. En fait, il y a énormément de goodies très intéressantes, et dont la goodies ultime qui va être débloquée ou qui doit être débloquée est au final une sorte de jeu de société, puisque le trésor ultime est des pions cartonnés et des plateaux modulables, donc on va pouvoir modéliser des batailles navales.
Un truc à AD&D
peut-être.
C'est pas très bon ça pour un jeu de rôle.
Peut-être. Mais en gros, vu la tonne de goodies qui ont été débloqués, ça a l'air d'être un truc assez énorme. Et donc pour 100€, vous avez deux bouquins en couleur avec un bel étui, des cartes des Caraïbes, donc trois cartes géantes des Caraïbes, je ne sais pas quelle taille ça fait. Trois cartes de l'Europe, trois cartes également, une pour l'Europe, les Indes orientales, l'Afrique, donc vraiment tous les terrains pour se promener. Pour naviguer, et des cartes pour faire les scènes d'escrime, voilà, un petit peu de magie, ils ont même mis des trucs genre vaudou, etc. là-dedans. Bref,
normal.
Ça va être assez, assez large.
Les goodies.
Un écran de MJ, enfin voilà.
Un écran de MJ ? Quelle originalité !
Non, oui, mais il fallait atteindre le seuil des 75 000 euros pour avoir un écran de MJ.
Au moins, t'en as un. En général, c'est ouais, 15€ à part.
Ah là, c'est 99€ quand même, ouais. Le tout. C'est pareil, là. Non, pour 99€ à tout.
99€, t'as deux bouquins. Au final, si tu connais le prix d'un bouquin de jeu de rôle, c'est tout à fait correct.
Oui, tout à fait.
T'as deux bouquins, plus l'écran du maître, ouais. Plus, en plus des
plus
choses
toutes les cartes,
originales,
plus
non,
les cartons, les machins, etc. Oui, oui.
Ceci étant, ils sont bien gentils, mais la tendance à Kickstarter et Ulule, c'est tu finis par payer aussi cher, voire un peu plus cher que si t'achetais le jeu dans le commerce. Et tu te retrouves quand même avec
peut-être que le jeu il sortirait pas sinon.
Mais peut-être que le jeu il sortirait pas, et tu te retrouves quand même avec un truc que tu n'as pas testé et compagnie, donc tu te retrouves à payer le même prix que si le jeu était sorti, et alors qu'en plus tu prends des risques
là,
et
c'est un
je
risque
trouve que c'est vrai que la tendance ces derniers temps avec Kickstarter et Ulule, c'est quand même, au début il y avait des super bonnes affaires, et aujourd'hui on se retrouve un peu Alors, on n'est pas couillonné, mais on se retrouve quand même à payer plus cher au final, tout en prenant le risque.
Tu peux nous raconter un peu sur quoi tu as béqué dernièrement?
Oui, non, mais je pense à ça, notamment, j'en parlerai tout à l'heure.
Ouais. Ouais.
Mais quant à ça,
mais de plus en plus, tu as des jeux qui sont très chers.
T'as pas de risque particulier quand t'as Pavillon Noir. C'est un système qui a été éprouvé dans la version 1 et ils veulent pas particulièrement renouveler le système. C'est quelque chose qui.
Mais c'est ça. Moi, je pense que c'est
un jeu original ou c'est une traduction.
C'est un jeu français. L'auteur est, je crois, en tout cas fan d'histoire et de la. Non, je sais pas d'où il est, mais il est fan d'histoire et de tout ce qui a rapport avec la piraterie. Et voilà. Même si le jeu de rôle est basé sur une version un peu romancée des pirates, c'est tout à fait intéressant à mon avis.
Oui, c'est cool les pirates en plus. Mais bon, tu vas pas faire la vraie version pirate avec juste des crasseux sur un bateau qui meurent du scorbut, quoi.
Non, c'est clair, c'est pour ça. C'est vraiment un truc à la Pirate des Caraïbes et voilà, avec des combats épiques, de la canonnade de partout et voilà.
Tu peux crier.
Par contre, toi, David, tu jouais à Metal Adventure.
Metal Adventure.
C'est pas un jeu de pirate non plus.
C'est Pirates de l'espace. Il y a la dimension de l'espace qui.
Ça change tout.
Ce qui change tout.
Et ça ne t'intéresse pas?
Non, parce que moi c'est l'espace. Déjà, vraiment, c'est le côté Albator qui me rappelle ma jeunesse, oui. Madeleine de Proust.
D'accord. Alors pour info, il semblerait que Black Book Edition fasse aussi un crowdfunding pour Polaris et pour des extensions pour Polaris.
C'est bien.
Alors je ne sais pas. Il paraît qu'avec Dogs in the Vineyard, c'est l'un des deux meilleurs jeux de rôle de l'année.
Selon le blog de la cellule.
Le blog de la cellule. Mais je les crois pour Dogs in the Vineyard. J'ai pas accroché à leur one shot de Polaris, mais il y a aussi un crowdfunding pour ça chez Black Book, donc allez voir. Donc en résumé, on peut l'acheter ou pas?
Oui.
En fait, c'est plus de la précommande. C'est un système précommande où ils déclencheront l'édition que s'il y a un certain nombre de précommandes.
Alors, ils déclenchent l'édition quoi qu'il arrive. Là, en gros, c'est du bonus. Tout ce qui reste, c'est si vous pledgez, ça sera des goodies en plus, des trucs en plus. Voilà. Ensuite, ça reste un prix très intéressant pour ce qui est proposé. Si vous aimez bien le jeu de rôle, c'est le truc à pledger, à mon avis, actuellement. Si vous aimez bien l'univers des pirates également. Voilà.
Et puis, si vous aimez Polaris. N'hésitez pas à aller rendre une petite visite à Black Book.
Mattel, après avoir ressorti l'Overboard de Retour vers le futur, se lance dans le jeu de société.
L'Overboard, c'est comme Love Letter.
Bouh.
Le jeu de société, et alors le jeu de société, mais on est bien dans cette news-là, oui.
Treasure Hunter.
On n'en connaît pas grand chose de ce projet, si ce n'est que les illustrations sont faites par Pierrot.
Et c'est super beau, ça m'a fait penser un peu à du Ghost Stories pour enfants.
Et tu sais pourquoi? Alors c'est effectivement un jeu pour enfants, ça a une adhérence avec Ghost Stories, puisqu'il a fait dédicacer l'auteur de Treasure Hunter.
Brian Yu.
Voilà, il l'a fait dédicacer en 2008, et un peu plus tard, Brian Yu lui a demandé expressément un dessin, et il a demandé de se dessiner lui et sa femme pour son mariage, pour fêter ses un an de mariage. Il lui a demandé une illustration sur mesure. Et puis un peu plus tard, donc il l'a appelé en lui disant: écoute, est-ce que tu veux travailler pour Mattel? Donc Antoine lui dit:
c'est pas Antoine, c'est Pierre.
Donc Pierrot, Antoine Moza, parce qu'on parle de Ghost Stories. Pierrot, lui, il a dit bien sûr que oui, et au final, ça s'est fait. Là, il en est au concept. Donc sur son blog, vous pouvez avoir à la fois des nouvelles de Rampage, le prochain Rose Prod, et puis Treasure Hunter.
Les croquis.
Les croquis, la colorisation, les différents dessins qu'il a fait en orange, ça faisait trop Halloween, en bleu, puis avec la lune à droite et la lune à gauche, c'est très intéressant. Je vous invite à aller sur le blog de Pierrot pour regarder tout ça.
Vers l'infini et au-delà, quoi de neuf dans la galaxie?
Vous l'avez annoncé et puis... T'avais fini là? On vous l'avait annoncé et réannoncé. Roll for the Galaxy et Rest for the Galaxy Alien Artifact va enfin arriver.
Non, Rio Grande repart à nouveau, qui devrait sortir à l'automne.
C'est ça, l'automne.
À l'automne, c'est Essen.
C'est 21 septembre, ouais. Ou de l'automne, c'est demain.
Octobre-novembre.
C'est demain.
Enfin, disons qu'on n'a jamais été aussi loin dans les annonces de sortie jusqu'à présent.
Aussi près, tu veux dire?
Aussi près, oui.
Aussi près. Non, voilà, moi je l'attends avec, avec impatience. Certains n'aiment pas Rise of the Galaxy ou trouvent que c'est un peu trop compliqué. Par contre, je trouve que c'est un des tout meilleurs jeux de cartes à construire. Alors, deck building ou pas, je sais pas comment on l'appelle.
Non, pas de deck building. Non, pas du tout.
Voilà. Et j'attends avec impatience la version D et la version Alien Artifact.
Qui repart à zéro. Aussi. Hein. On avait dit avec Maël, hein, c'est une extension qui repart. Vous reprenez que la boîte de base Rise of the Galaxy et vous prenez que Alien Artifact. Ouais,
ouais. Bon, comme j'ai comme la boîte de base pour le moment.
Oh. Je te conseille la première et ou la deuxième extension.
Et, la deuxième. Bah, je joue beaucoup sur BGA.
Mais il n'y a pas les extensions.
Il n'y a que la boîte de base.
D'accord.
Moi, je te conseille de l'acheter.
Merci pour ce conseil.
La merde, ce jeu.
C'est pas parce que t'as pas compris que. Il est où le mouton ? Il est chez Libellude.
Encore une brève pour moi. Cache Mouton, c'est un des tout meilleurs jeux du monde pour jouer avec les enfants. C'est basé sur une fable, Les Sept Chevreaux, Le Loup et les Sept Chevreaux. Et c'est une partie de poilade mais incroyable où il y a une petite poupée à doigts représentant un mouton, il y a des meubles sous lesquels on va cacher des chevreaux et il va falloir le loup va devoir retrouver les moutons et c'est très 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 drôle, je te conseille Alexis pour ta petite fille. C'est vraiment, moi je suis très très content que Libellude ressorte ce jeu.
Il va être looké
sans doute. Non,
ils le reprennent tel quel et...
ouais, il y a très peu de changements et voilà. Donc si vous avez un jeu, si vous cherchez une idée de jeu à acheter pour un enfant, je dirais à partir de 4 ans jusqu'à 8-9 ans, ça marche très.
Il a même eu un As d'or, jeu de l'enfant, pour enfant, non, il me semble.
Oui, il y a 2 ans.
Ouais, c'est pas si vieux comme jeu, c'est étonnant qu'il change déjà de...
C'est pas Jérémy qui va me contredire, mais chez Yellow, ils sortent des bons jeux. C'est quoi leur prochaine sortie ?
Oh, y a un super planning cet automne. Alors, il y a Steam Park qui font en coopération avec Cranio Création. Cranio qui sont des Italiens. Steam Park, ça fait 2 ans quand même qu'il était en préparation chez Cranio. Enfin, il va arriver. Par contre, j'ai vu que des visuels. Pour l'instant, je ne sais pas de quoi ça parle.
Oui, mais c'est déjà terrible. C'est Marie Cardois qui a fait ces visuels-là.
C'est Marie Cardois, ouais, carrément. Ah non, mais par contre, les visuels sont superbes. Il y a Zombie 15. J'aurai l'occasion de vous en reparler. C'est un fameux jeu de zombies qui se joue en temps réel en 15 minutes.
Il paraît que c'est pas terrible.
Non. Les graphismes sont super, ça n'a rien à voir avec mon proto qui était déjà très beau, mais qui franchement là, les graphismes sont superbes, on peut pas vous les communiquer pour l'instant. Et
vous
le
allez
jeu...
sur Facebook, vous aurez des visuels.
Voilà, mais vous allez commencer à entendre parler puisque Yellow prévoit de.
Comment ça, on peut pas avoir des visuels de Zombie 15 ?
Si, que la couve pour l'instant. Moi, si, moi je te les montrerai en off.
Bah voilà, on mettra sur notre site.
Non.
Comment ça, t'as un NMD ?
Je vais me faire torpiller par.
Et puis Heroes of Normandy de Yann Eklen. Alors je me tourne vers Krilin.
Oui.
Tu nous en avais parlé, non ?
Oui, j'avais fait une chronique là-dessus.
Ouais.
En parlant de frontières et tout ça, voilà, et qu'il fallait absolument biker.
Alors comment ça se fait que...
Ah, j'avais pas dit qu'il fallait...
Non, pas absolument, mais
t'avais
dit.
Parce que moi, je trouvais que c'était un peu cher au final.
Donc,
globalement, non, frontières, c'était un Warhammer 40 000 likes, mais en carton,
pas
sans figurine. Pas inintéressant. Et ils avaient fait le même système avec le débarquement, donc Heroes of Normandy. A priori avec des règles un peu moins fouillies, un peu plus de concessions au jeu de plateau, mais je pense que ça avait du potentiel. Mon seul problème, c'est que pour du carton, c'était quand même assez cher. Ils avaient 10 000 extensions, donc très vite tu te retrouvais à mettre 90€.
Pour 10 000 extensions, c'est pas mal.
Pour
10 000 extensions, c'est pas mal, mais ça reste du carton, quoi.
Ah bah ouais.
Alors il y a toujours un débat. Oui, faut bien que les auteurs y mangent d'un côté, mais en même temps, outre le côté Kickstarter qui m'ennuie un petit peu en ce moment, je trouve que je veux pas manger sur votre débat du jeu de société, mais je trouve qu'en ce moment, avec la démocratisation, on se retrouve comme avec le jeu vidéo. C'est-à-dire que le jeu il sort à peine fini et on a déjà prévu 4 ou 5 extensions dans le but de faire crasher les fans.
Ouais, je pense que ça c'est le propre du crowdfunding.
Ça c'est un peu casse-couille.
Bah, on en parlera tout à l'heure.
Ouais.
Ok. Donc moi j'ai retenu, enfin nous avons retenu entre autres chez Yellow les sorties.
Et attends, chez Yellow ils vont sortir les nouvelles armées de Neuroshima X aussi.
Chez Yellow
bah,
ah, ils font la trajectoire avec Portal, oui. Okay. Mais c'est oui, on en a déjà parlé.
A priori, sur BGG, le mec de Yellow disait qu'ils étaient en train de travailler sur la traduction. Ouais. Et de même que Neuroshima va avoir une version 3 et Yellow envisage de la sortir. Donc avec des nouveaux graphismes. Théoriquement, ça change pas le gameplay. C'est le même jeu avec beaucoup de. Le graphisme est complètement différent.
C'est que cosmétique, tu veux dire ?
C'est que cosmétique pour le graphisme. Par contre, au niveau des règles, ils ont résolu plein de petits problèmes, des erreurs qui s'étaient glissées ici et là. Avec les nouvelles armées, ils ont fait des règles mieux au clair.
Harmonisées en fonction des extensions qu'il y avait.
Il va y avoir la cinquième armée qui était les Doomsday Machines, qui était seulement une extension ASN, qui actuellement était en print and play. Ils vont la mettre dans la boîte de base. Et il y aura aussi des espèces de problèmes, genre Sudoku.
Des puzzles,
voilà. Les mêmes que ceux de l'iPad.
Pareil au décollage ? Ah ben non. Un Kickstarter abandonné ?
Oui, un jeu sur le thème de Firefly, la série lancée en Kickstarter et abandonnée pour des raisons de problèmes de propriété intellectuelle et droit.
Apparemment, c'est un peu plus compliqué que ça.
Tu veux nous en parler aussi, je pense. Alors d'abord, moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que tu penses de la série ? Et est-ce que la série Firefly se prêterait à un portage en jeu de société ?
Alors, la série Firefly est très très bien. C'est une série de Joss Whedon, et Joss Whedon, c'est quand même un mec qui a fait des séries de bonne qualité. Il a fait Buffy. C'est peut-être pas le meilleur qu'il ait fait. Il a fait par exemple un arc des X-Men qui est absolument génial. Il a fait
Avengers.
Il a fait pour Avengers aussi. Ouais, mais moi je regarde pas.
Il était réalisateur et scénariste.
Ah. Oui, ouais.
Ah, du coup, il baisse un petit peu. Là.
Ah, il baisse un peu. Mais Joss Whedon, en tout cas en tant que scénariste, fait des trucs qui sont très très bien. Mais il a un peu, c'est un peu le Terry Gilliam des séries. Tout ce qu'il propose, ça finit annulé. Donc voilà, la série Firefly a été annulée assez vite. Il y a eu une douzaine d'épisodes parce que je crois que c'était la Fox et qu'ils n'ont pas, donné suite.
En fait, il y a eu 15 épisodes de fait. Ils en ont diffusé 12 qui n'ont pas été diffusés d'ailleurs dans l'ordre.
En général, c'est le début de la merde.
Pour Caprica en fait.
Ils n'ont pas rencontré suffisamment de public et par contre. Ensuite, les ventes en DVD ont été assez.
C'est une série culte pour les
c'est
geeks.
C'est devenu vraiment une série culte. C'est assez impressionnant. Moi, je suis abonné à la communauté Google Plus de Firefly et il y a 100 posts par jour. Quoi.
Et
il y a 100 nouveaux posts par jour. C'est juste d'accord. Impressionnant.
Il y a eu un film pour.
Des images, des vidéos, des trucs.
D'accord, mais est-ce que le background peut
s'adapter à un jeu ?
Est-ce que ça
le problème, c'est que n'importe quel background peut s'adapter à un jeu, ça dépend du type de jeu. Moi, je trouve que Firefly, le truc qui était sympa, c'était cette ambiance un peu des mecs qui essayent de survivre au milieu de l'immensité de l'espace, qui prennent des petits boulots ici et là.
C'est pas ceux-là qui sont toujours bien habillés et tout propres ?
Pas du tout.
C'est tous les films d'Hollywood, Olivier.
C'est un space opéra avec des scènes qui se passent avec des scènes qui se passent dans l'espace où ils sont dans leur vaisseau qui est un vaisseau de classe Firefly, donc tout simplement d'où le nom de la série, un vaisseau qui s'appelle Serenity. Et sinon, toutes les scènes qui se passent sur des différentes planètes, c'est beaucoup plus une ambiance western. Donc ils ont des espèces de pistolets, ils sont à cheval la plupart du temps. Donc c'est assez, assez étonnant. Et ça ressemble plus à une ambiance, quand tu vois la guerre des étoiles, t'enlèves les Jedi. Et tu vois l'univers de Han Solo, les bars, etc. Les trucs comme ça, ça c'est Firefly. Ça c'est Firefly. Ils ont pris ce côté-là de Firefly et ils ont enlevé tout ce qui était magie, etc. Donc
C'est une ambiance assez sympa. Moi, je l'ai déjà retrouvé à peu près dans le jeu vidéo FTL, Faster Than Light. Pour tout le côté rencontre aléatoire, immensité de l'espace, tu peux te retrouver dans la merde à n'importe quel moment. Et je l'ai trouvé un peu dans le jeu de plateau Galaxy Trucker. Justement aussi pour les rencontres aléatoires et le côté tu prends un astéroïde et ben t'es sacrément dans la merde parce qu'il n'y a personne qui viendra à ta rescousse. Et a priori, puisqu'on parlait tout à l'heure de ce que j'ai backé, il y a un jeu en Kickstarter qui va arriver en début d'année prochaine qui s'appelle Xia Legend of a Drift System, qui est un jeu sandbox dans l'espace. Et là, j'ai vraiment eu l'impression que ça allait vraiment être dans cette ambiance-là. c'est-à-dire énormément de liberté d'action, énormément de difficultés pour survivre et de paramètres à gérer. Voilà. Donc oui, c'est possible d'en faire quelque chose de bien. Celui-là a été annulé a priori, mais c'est pas sûr, peut-être, ça dépend. Et en même temps, il y a un autre jeu, celui-là un jeu de plateau qui n'est pas encore annulé, qui va sortir. Et lui, il a l'air d'être un peu sur le créneau de Xia Legend of Drift System, mais il faut voir. Je juge pas un jeu juste sur sa licence.
Ok. Oui. Alors rappelons quand même que le meilleur jeu de space opéra du monde, c'est quand même Battlestar Galactica, et qu'il y a une vraie raison pour que ce soit.
Je sens qu'il a rétrogradé. Hein, il est devenu plus le meilleur jeu du monde. Space opéra. Il est à point. Il est pour une sous-catégorie. Là.
Non. Mais enfin, voilà. C'est un jeu tiré d'une série. Ça a un sens parce que la série impose quand même des contraintes qui ont influent sur les mécaniques de jeu. Et ça c'est vraiment chouette.
Justement, Firefly serait plus une série qui pourrait donner un produit dérivé en jeu de rôle. C'est plus une petite équipe qui se bat contre le monde plutôt que.
Voilà,
je
ne
sais pas s'ils se battent, mais en tout cas, ils
survivent.
Ils sont des espèces de. C'est des cow-boys, quoi. Ils offrent leurs services aux plus offrants et si possible, pas. C'est des chaotiques neutres, quoi. Voilà.
Tu as une notion de groupe qui est intéressante.
Et la notion de groupe est excellente parce qu'il y a vraiment une fusion. C'est vrai que c'est exactement ça. Il y a une fusion entre chacun des membres qui ont chacun leurs capacités et leurs défauts qui sont absolument excellents. Et c'est pour ça que les geeks se sont vraiment retrouvés dans chacun de ces personnages sans aucun problème. Et les actrices sont très mignonnes.
Ouais.
Tu parlais de Battlestar Galactica. Il y a un autre jeu de cartes qui est clairement inspiré
de
Battlestar.
C'est pas un jeu de cartes, Battlestar Galactica.
Donc il y a un autre jeu de cartes qui est clairement inspiré de Battlestar Galactica, c'est The Resistance.
Oh là là, 5 ans de retard, 5 ans de retard,
ça,
mon dieu.
Non, c'est pas du tout.
Tu sais qu'il a été refait, hein, c'est à Avalon maintenant.
Ouais,
non, je suis pas d'accord avec toi.
Et donc c'est clairement Battlestar, sauf qu'ils n'avaient pas la licence. Ouais. C'est exactement le début de la saison 3, toute la partie où ils sont sur leur planète avec la Résistance et des Cylons infiltrés.
Non.
Si.
Absolument pas, c'est des espions.
Oui, non, c'est exactement non. Ça. C'est...
Alors, n'a rien à voir.
Si.
Et tu peux pas tourner de site de humain à Cylon.
C'est ça.
Ça n'a rien à voir.
C'est juste la belle mécanique, c'est dire.
David, s'il te plaît, ne passe plus le micro à ta droite.
J'ai dit la saison 3, pas la saison 4. Dans la saison 4, évidemment.
Bon, quoi qu'il en soit, on parle aussi d'un bon jeu, The Resistance ou Avalon. Enfin, Avalon, je ne l'y vais jouer, donc je ne peux pas m'exprimer.
Je l'ai apporté, on va tester.
On y jouera ce soir, ça sera trop tard, mais c'est un très bon jeu. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Krina, c'est un bon jeu.
La chanteuse Zaz n'est plus en conflit avec Ravensburger, enfin, c'est ce que j'ai compris.
Voilà, oui.
Qui sait ce que c'est, Zaz?
C'est la Statun.
C'est l'association des auteurs
c'est
allemands.
C'est pas une chanteuse.
Non, c'est pas.
C'est l'association.
Moi, je croyais que c'était une chanteuse.
Non, ils réclamaient.
Moi, je connaissais pas la chanteuse.
D'avoir leur nom au générique.
Surtout écrit.
Ah, c'est bien pour ça. Oui, on en avait parlé avec Olivier l'année dernière. Il y avait un conflit pour les auteurs. Je crois que ça venait de Knizia à la base, non?
Peut-être.
Parce que Ravensburger voulait plus mettre le nom des auteurs sur les boîtes de jeux. Donc il y avait tout le débat de savoir s'il fallait ou pas mettre le nom. Enfin, c'était un faux débat qu'on avait fait, mais pour savoir s'il fallait mettre ou pas le nom de l'auteur sur.
Oui, puis on en avait parlé après. Ça a des incidences en France sur les droits que peut avoir un auteur de jeux de société par rapport à sa rémunération,
à l'image, etc. Et d'ailleurs, on a eu un exemple juste avant l'enregistrement du podcast avec Plane qui nous a demandé qui était Antoine Boza. Alors qu'elle a la boîte de Seven Wonders sur ses étagères, ce qui prouve que certains joueurs ne regardent pas le nom des auteurs sur les boîtes.
Ou que certains joueurs jouent au lieu de passer du temps à regarder les boîtes.
Non, mais au contraire, en fait, l'idée, c'est quand tu adores le jeu, tu te dis ah, qui c'est qui l'a fait, et je vais aller voir ce qu'il a fait d'autre. C'est l'idée.
Ou pas.
Ou alors il n'a rien fait d'autre. Bon.
Et au final, qui est-ce qui a gagné?
Eh ben, alors, selon la police, c'est plutôt.
Sur les organisateurs.
Typiquement, en fait, c'est clairement les auteurs qui ont gagné de toute façon.
Mais Ravensburger dit qu'il est cool. Enfin, dit qu'ils
sont contents du compromis.
Parce qu'Ulrich Blum, le PDG
de
Ravensburger, qui se félicite de l'accord qui était trouvé avec l'association.
On ne sait pas l'accord exact, mais en gros, il y aura toujours le nom des auteurs sur les boîtes.
Oui, puis au niveau des contrats, il y a des choses qui ont été un petit peu mis à plat. Donc,
les auteurs payent maintenant pour qu'il y ait leur nom.
Ils ont diminué le.
Un juste rééquilibrage des choses.
Voilà.
Une réduction de jeux de rôle chez Monster Game. Fendoel, est-ce que tu peux nous en parler après avoir bu un coup?
C'est le problème de faire du
podcast. Il fait exprès de boire un verre quand il sait que ça va être à lui de parler.
Non, c'est parce qu'il a mangé des gâteaux avant.
Et du coup, la bouche bien sèche, hein, c'est dur hein, pour parler. Hein. Puis tu vas nous parler un quart d'heure, s'il te plaît.
Oui, donc Animonde est réédité chez Monster Game.
Mais excuse-moi, mais Monster Game, ils font pas de jeux de rôle.
Exactement. Alors ça, c'est très étonnant. Donc j'ai demandé à Emmanuel Beltrando pourquoi est-ce qu'il éditait ce jeu de rôle. Et en fait, Emmanuel Beltrando a un associé. Et cet associé a vraiment adoré l'univers de ce jeu de rôle, donc Animonde, qui est un univers assez spécial. Alors on va rappeler un petit peu... l'univers de Animonde, c'est un jeu de rôle qui est sorti dans les années 80, qui a été fait par Croc et qui raconte l'histoire de.
Elle est hurlement à ma droite. En fait, Plaine connaît personnellement Croc.
Tu connais personnellement Croc?
Bah, j'ai fait un truc chez les copains de Basingcast. Donc, on a fait un épisode sur le jeu de rôle avec Croc et c'était dans une cave et c'était une expérience terrible. Majoritairement parce qu'il faisait super chaud.
Saccagé Manouille.
On l'a bienvenue chez Petit Jeu. Ça se passe comme ça.
Tu peux reprendre au début, on n'a rien compris.
Donc, Animonde.
Animonde sera réédité chez Monster Game. Animonde, c'est un jeu de rôle fait par Croc dans les années 80 et qui va être réédité parce que l'associé de Emmanuel Beltrando, donc, qui est l'éditeur qui représente Monster Game, a adoré ce jeu de rôle dans les années 80. Alors, pour rappeler un petit peu l'univers de ce jeu de rôle, c'est un futur post-apocalyptique dans lequel les humains n'ont plus de métal, n'ont absolument plus rien en métal autour
d'eux. C'est l'avenir, quoi.
C'est peut-être l'avenir.
C'est con, il y a
et dans lequel les humains vivent en synergie avec les animaux. Alors, c'est des animaux un peu spéciaux.
C'est Avatar, quoi.
C'est pas tout à fait Avatar parce que par exemple tu vois tu peux faire une alliance avec une chenille qui va s'entourer autour de ton cou pour faire une écharpe.
Bah, c'est bien ce que je dis, c'est Avatar.
Ça fait ça dans Avatar.
Ils font n'importe quoi avec leur.
Ça dépend si t'as les cheveux longs ou pas. Bon, ben. Pour nous, ça marcherait pas, mais pour Alexis, si, tu vois.
Alors, il y a une mécanique qui était assez originale, je trouve, c'est qu'en fait, la violence était rarement la solution, et c'est-à-dire que les personnages déprimaient quand ils voyaient des actes violents devant eux ou quand ils réalisaient des actes violents. Il valait mieux souvent éviter le combat, baisser le regard et dire qu'on avait perdu plutôt que, et c'était plus gratifiant. Le système n'encourageait vraiment pas les grosses batailles, donc c'était quelque chose d'assez assez étonnant. Et pareil, c'est vraiment un univers où quand on voit un animal qui a mal ou quelque chose comme ça, bon, les personnages ont de l'empathie pour les autres animaux et les autres humains. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez assez original.
C'est un truc pacifiste.
Extrêmement pacifiste.
Oui. Et ils vont redévelopper le système, ils vont développer, étoffer.
C'est une très bonne.
Ils vont changer, ils vont mettre de la baston.
Très bonne. Un peu de métal quand même.
Pas du tout. En fait, l'idée c'est de poursuivre en fait l'univers, c'est-à-dire qu'en gros l'histoire du premier Animonde se passait avec différentes factions et en fait ils visent à faire évoluer les différentes factions pour qu'on puisse jouer avec les évolutions de ces différentes factions qui étaient par exemple des commerçants, des exploreurs, etc. Et explorateurs plutôt. Et donc voilà, l'idée c'est de faire vraiment la suite de Animonde. Alors le jeu de rôle, il est déjà rédigé et il reste
toujours
les
croc.
Illustrations. Ça sera pas Croc.
Ouais, je pense
ça
que
sera
voilà,
pas Croc.
Ça sera plus Croc.
Et les illustrations restent à faire. Donc a priori, ça serait une sortie en 2014 quand toutes les illustrations seront faites.
Il n'y a pas de crowdfunding cette fois-ci.
A priori, non.
Pas encore.
Voilà, c'est pour faire plaisir à Krillin.
Une nouvelle règle en vidéo, le désert interdit.
Le jeu est enfin sorti, il est disponible en boutique. On en a parlé lors de notre débrief de Cannes, épisode 42B, phase B. J'ai personnellement beaucoup apprécié, je trouvais que c'était un cran au-dessus du familial L'île interdite.
Beaucoup plus de pression et tout. Ouais.
Voilà, et donc vous pouvez, sur le repère du jeu, vous pourrez retrouver les règles en vidéo et puis j'espère que ça va vous donner envie d'acheter une autre boîte métal.
À noter, la boîte elle est métal, mais c'est un format carré cette fois-ci. Donc elle tiendra pas avec l'île interdite, je l'ai acheté.
C'est pour pas qu'on les confonde.
Ouais, mais c'est encore un format carré qu'on n'a pas habitude. Enfin, j'en ai pas d'autres de boîtes de ce taille-là, de ce format-là. Donc, je sais pas. Et par contre, dans la règle, il parle d'un troisième. En fait, il y aurait une trilogie. Donc, c'est déjà que Tom Lehman travaillerait avec un autre, je ne sais pas, un autre concept.
Un autre truc interdit.
Ouais, mais voilà. Mais, donc, je voulais parler des vidéos. On parle du repère du jeu et de leurs vidéos.
Ah oui, non, mais.
T'as touché un cachet, je crois.
Super. Ouais. Non, j'ai absolument pas touché de cachet. Mais non, bah, c'est tout. C'était simplement à ajouter que le site du repère des jeux font des règles en vidéo qui sont souvent bien expliquées. Avec, donc vraiment très bien. Un site à aller voir.
C'est le site dans lequel Yohann Levé fait ses vidéos aussi ?
Non, c'est Jeudi Jeu, c'est Focus on Board.
Ah, mais donc il y a aussi Focus on Board.
C'est très bien aussi. Et ça, c'est celui de Yann Dreyf, peut-être, non, le repère des jeux ?
Non.
Non.
Ah, la vache. Toujours pas.
Ah non, c'est Vidéo Règles.
Hein. Ça, c'est Vidéo Règles.
C'est dans la tête de Yann Dreyf.
Ouais, mais c'est appelé Vidéo Règles.
Hein. C'est Matin Ciel qui fait les vidéos. Et il est présent sur Twitter, @matinciel.
Et il s'arrange pour pas tous avoir les mêmes vidéos, je pense.
Mais en fait, il n'y a plus besoin de lire les règles, en fait.
Mais ouais.
Non, maintenant, c'est le...
En fait, ouais, maintenant...
Il ne joue pas à notre place.
À condition d'acheter le jeu, après.
On vous fera un petit récapitulatif de là où on peut trouver des règles. On mettra ça sur le billet de l'émission.
Après le H5N1, quelle sera la prochaine pandémie ? Des nouveaux scénarios pour pandémie ?
Ouais, alors, Philosophia propose sur leur site, depuis fin juin, on avait raté forcément, on était déjà en vacances, des scénarios pour pandémie. Ils en ont mis pour l'instant un seul, qui s'appelle Isolation. Il y en aura d'autres, a priori, qui devraient suivre. L'intérêt, c'est qu'on peut jouer avec l'ancienne et ou la nouvelle édition de Pandémie, parce que je rappelle que Passage...
Avec la boîte de base
Ouais, avec la boîte de base seulement pour celui-là. Le concept, c'est qu'en fait, il y a... Bon, pareil, il y a l'histoire des pandémies et le continent américain, en fait, s'est enfermé derrière ses frontières et donc on ne peut plus, on peut pas y aller. Et il va falloir, malgré tout, réussir à.
Okay.
À sauver. Donc, c'est-à-dire qu'en fait.
Si on y est, on peut. En fait, on
non, tu peux
plus
pas y
être.
Non, non si je me trompe pas, ouais, tu peux pas, tu démarres pas là-bas. Et donc, ce qui se passe, c'est que la pandémie jaune va se développer sans pouvoir. Sans que tu puisses aller nettoyer. Il y a par contre une mise en place particulière. Les rôles sont déjà prédéterminés. Les cartes en main sont prédéterminées, à mon avis, pour donner plus de chance aux joueurs.
Oui.
Je vais pas tester, mais ça peut être intéressant. On vous mettra le lien, voilà, pour jouer, pour varier. Et sinon, je vous conseille plutôt l'extension après si vous voulez vraiment beaucoup de variations dans le jeu.
Oui, avec les mutations.
Voilà.
La fin du monde n'a pas eu lieu. Elle aura peut-être lieu sur Internet, sur Board Game Arena, avec l'arrivée de Tzolk'in.
Alexis, peut-être.
Ah bah Alexis.
Oui, bah moi j'ai fait une partie. Ça tombe bien, il y a deux jours, donc ça tourne bien. Après, trop loin.
Ouais. Bien prêt.
Ouais, donc j'ai essayé, ça tourne bien. C'est encore en phase de debug, enfin c'est ce qui s'appelle les bêtas. Donc voilà, mais ça tourne bien. On n'a pas rencontré de problème. Et non, c'est sympathique. Après, bon, il faut une certaine prise en main. Donc après une partie, c'est difficile d'avoir un avis. Mais non, à retenter. Donc bien.
Ok, très bien. On vous reparlera un petit peu des jeux sur. Des jeux de société sur écran un petit peu plus tard avec le chat de Proxy Jeux.
Et puis du Dominion sur Goko. Jérémy, tu peux nous en parler, toi qui es fan de Dominion ?
Ah, je suis fan de Dominion, mais pas de Goko. Alors,
c'est pas ceux qui avaient fait le plus mauvais lancement du monde.
C'est ça, exactement. Goko qui a complètement foiré le lancement de Dominion Online il y a tout juste un an, parce que je crois que c'est le 15 août. Maintenant, a priori, c'est à peu près jouable. Ils avaient voulu faire une version, on va parler un peu technique, HTML5, donc normalement une version qui était jouable depuis n'importe quel terminal, que ce soit un PC, un Mac, n'importe quoi, depuis un navigateur. Et ils reviennent en arrière et ils vont finalement... je pense qu'ils vont la garder la version actuelle, mais ils vont faire finalement une version native pour pouvoir jouer sur iPad.
C'est de la merde le HTML5.
Je pense que le problème c'est que Goko, peut-être que le HTML5 à mon avis ça marche pour eux, mais ils ont un problème à mon avis financier et vendre des applications sur l'App Store, ça va leur apporter de l'argent. Quand on voit à mon avis les succès des Agricola et des choses comme ça, ça va être pour ça. Et après tu m'as pointé une autre.
Mais ouais. Dominion, ils voulaient pas faire une version officielle.
Si, mais c'est celle-là en fait, c'est Goko qui avait eu le droit de faire la version officielle. Okay. Mais heureusement, depuis, on peut toujours jouer, je crois, avec les versions qui étaient normalement interdites, qui voulaient virer. On peut toujours jouer à Andromignon, notamment sur Android. On mettra une. Il y a eu une interview dans Pocket Tactics, mais elle est trop récente, elle a deux jours, c'est pour ça que je ne l'ai pas lue.
Désolé d'être à jour.
Donc une interview.
Proxy Jeux, le podcast de l'actualité.
Alors je lis Pocket Tactics très régulièrement, mais pas quotidiennement effectivement.
Le matin au petit déj.
Exactement.
Mais comme t'as petit déjeuner ce matin.
Non, c'est-à-dire que les interviews de Pocket Tactics, elles font, elles sont longues, donc j'ai pas le temps de les lire.
C'est trop long, c'est trop compliqué.
Oui. C'est en anglais.
Alors ça, je comprends.
Tout s'explique.
Dans l'espace, personne ne vous entend crier, pas même les Space Marines.
Alors ça c'est une news, j'aurais voulu vous en parler un peu plus en détail maintenant. Il est 15h, nous sommes le 15 août et Space Hulk n'est toujours pas disponible sur stream.
C'est
il
un peu comme la Gen Con.
Il sera disponible quand on aura fini en fait. Je l'ai précommandé sur Steam, Steam cette plateforme stream. De... J'ai dit quoi sur String, sur Steam, la plateforme de comment ça s'appelle, c'est une...
de Valve.
C'est Valve.
Oui, mais de distribution. Est-ce que c'est seulement les jeux Valve qui
Ah non, il y a tout.
Non, il y a deux types de jeux.
La preuve, il y a Space Hulk.
Donc, Space Hulk, c'est un jeu mythique de Games Workshop. On s'est rué dessus quand ils ont fait la troisième édition, et c'est un des rares jeux Games Workshop que j'ai peint. Et j'attends avec impatience
de peindre Dread Fleet, c'est ça.
J'attends avec impatience l'arrivée de Space Hulk. Là, je déménage, donc peut-être après j'aurai le temps. Après le Ripollin, j'aurai le temps de faire quelque chose avec les petits bateaux.
Elle est aussi annoncée sur iOS, mais pas par Steam, je pense. Du coup, elle devrait être également disponible.
C'est très joli. On mettra une vidéo sur le site pour ça.
Et sur Android, si ça vous intéresse, vous avez une espèce d'équivalent qui s'appelle Templar Elite. Qui a à peu près le même mode de fonctionnement. Les règles sont très proches.
Qui va peut-être se faire kicker si.
Qui va se faire kicker s'il sort sur la plateforme Android. Mais...
Non, parce que Games Workshop, s'ils avaient voulu les tacler, ils l'auraient déjà fait. Je rappelle que Games Workshop n'hésite pas à attaquer les propres personnes qui les aident à se développer ou des choses comme ça.
Ils refusent les visuels
sont interdits sur les boutiques. Et puis, ils se sont fait aider par des forums de joueurs passionnés pour monter des extensions, des choses comme ça. À la fin, quand c'est sorti, ils ont fait fermer les forums. C'est Games Workshop.
C'est une philosophie. Model, hein.
C'est bizarre comme philosophie. N'empêche qu'ils sont quand même là. Donc.
Bah, pourtant, à l'époque, il y avait Chaos League qui était sorti, qui était la version vidéo de Blood Bowl. Ouais. Ils l'avaient pas.
Non, parce qu'ils acceptent peut-être.
Parce que comme elle était trop buggée.
C'était ça. Et Templar Elite, c'est vendu sur Android.
En fait, ouais, il est vendu quelque chose comme 2€, je crois. Je sais plus.
2€, c'est pas cher.
Et je vais regarder. Il existe une version démo, 2,49€. Et en revanche, je ne pense pas qu'il puisse se faire kicker, comme vous dites, par
Games Workshop.
Parce qu'ils ont vraiment des graphismes qui sont à eux, bien particuliers, et un univers qui peut être potentiellement à eux. Même si globalement c'est toujours pareil,
c'est toujours des Space Marines.
C'est juste un mégalisme.
C'est toujours des Marines.
Space Marines dans un couloir et qui va arriver.
Ouais, en grosse armure avec un bolter et un.
ça change.
Mais ça s'appelle pas bolter, ça s'appelle pas épée.
Et donc Space Hulk sur Steam, c'est 27,99€ en précommande. Et je ne sais pas si le prix sera plus cher dans quelques heures.
Non, Steam c'est plutôt l'inverse, ça baisse les prix au fur et à mesure.
Ouais, mais là, c'est en précommande.
Ah, alors peut-être que ça sera 29,99€ et qu'après, il retombera.
Et attendez, peut-être, je vous ferai la critique de Space Hulk dans le prochain numéro. Et puis, si ça vous plaît bien, attendez Noël et les soldes Steam.
Et donc, tant qu'on est sur les plateformes Android et iOS, Pandémie va sortir sur iPad.
Ouais, c'est Z-Man Games et Philosophia, la même boîte, qui ont créé une filiale, une structure dédiée en fait au portage numérique. Un studio, voilà. F2Z Digital Media. Je sais pas pourquoi on a pris un nom si compliqué. J'aurais dû faire Z-Man Digital. Donc Pandémie arrive sur iPad. Alors Pandémie, c'est toute une histoire parce que pendant longtemps les joueurs l'ont attendu. Ils avaient trouvé un développeur en fait qui devait faire le jeu, et puis finalement le développeur n'avait pas développé dans le sens de l'éditeur le jeu. Donc plus rien allait, les délais n'étaient pas respectés. Donc à la fin le contrat avait été rompu. Et ça c'était il y a un an et demi. Depuis on n'avait plus de nouvelles de Pandémie, mais par contre était sortie une version un petit peu qui ressemble, qui s'appelle Opération Eradicate, qui est sur une thématique de zombies au lieu des pandémies c'est des zombies, et on a les mêmes mécanismes avec des personnages qui ont des pouvoirs et qu'on va déplacer et qui vont pouvoir nettoyer les zombies, etc. Donc on avait un jeu très proche qui est une réalisation, il n'est pas très cher, hein, je crois qu'il est vendu à 1,79€, quelque chose comme ça, mais il n'a pas la... Il n'est pas très intuitif à jouer, je ne l'avais pas trouvé. J'ai jamais beaucoup joué, en fait, j'ai jamais réussi à accrocher au design et à l'ergonomie du jeu. C'est pour ça que j'en ai jamais parlé dans Proxy Jeux. Mais ça existe sur iPhone et iPad.
Et tant qu'on est dans les zombies, une autre sortie, c'est Zombie, avec trois pleins d'exclamations, qui sort sur iOS. Ouais,
alors déjà qu'il envahit.
Non, mais je dis rien depuis tout à l'heure, mais vous avez fini de parler des jeux de merde, parce que déjà, pandémie, c'est franchement pas intéressant. Mais zombie, sérieusement, quoi.
Justement, alors, qu'est-ce que faut aimer le jeu de loi.
Qu'est-ce que tu reproches à pandémie?
Mais il est pas intéressant.
Pourquoi?
Mais c'est comme tous les jeux, c'est comme tous les jeux de, c'est comme tous les jeux de coop. C'est, tu te bats contre le hasard. Bon bah voilà, au bout d'un moment, soit tu le fais réellement en discutant et alors t'as aucune chance de perdre, soit tu le fais sans discuter et t'as aucune chance de gagner. Voilà.
Ah ouais, c'est intéressant de jouer avec toi, sinon. Okay. Ah, quand je dis qu'il faut choisir ses joueurs, je saurais déjà que je ne te proposerai pas. Donc oui, zombies, effectivement, faut aimer zombies, c'est pas forcément un super jeu, mais il vient tout juste de sortir. C'est quand même...
La merde.
Bah ouais, mais il n'empêche que c'est un jeu qui a 8 extensions, donc ça doit se vendre comme
c'est
des petits pains.
Les gens aiment la merde.
Ouais, ils achètent le Scrabble. Et donc... Ouais.
Mais en fait, zombies, c'est un peu le Scrabble pour les geeks, quoi. Les mecs qui savent pas ce qu'ils achètent, ils voient un jeu de zombies, ils disent « Oh, c'est trop bien !» et ils le prennent.
À notre époque, les jeux zombies, il y a du choix. Bref, il est sorti sur iOS, 2,69€, en version même français.
Ah, c'est bien ça.
Je n'achèterai pas, évidemment.
Voilà pour les brèves. Alors, on essaie de les raccourcir, mais on est bavard et on est bien entouré. Donc, on va essayer de faire de l'actu un peu plus bref la prochaine fois. Mais bon, c'est peut-être un espoir sans fin.
Un vœu pieux.
Un vœu pieux.